On entre dans le vif du sujet de notre émission. Et si vous deveniez vous-même, on parle confiance en soi et estime de soi. Donc Jean-François, tout simplement, qu'est-ce que la confiance en soi et qu'est-ce que l'estime de soi ?
Alors, en termes simples, on pourrait dire que la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi réside pour l'une dans le ressenti et dans l'autre dans l'action. Si on parle d'estime de soi, l'estime de soi s'apparente davantage à un sentiment, à un état. Je me sens, je ressens. Alors que la confiance en soi implique des actions. L'estime de soi est du domaine du ressenti et l'estime de soi se construit tôt, dès l'enfance. On la définit d'ailleurs habituellement comme la perception et l'auto-évaluation qu'on a de ses points forts et de ses points faibles quand on la compare à nos valeurs. Donc, le développement de l'estime de soi repose sur les valeurs morales qu'on a reçues. Cela consiste à se représenter comment on se considère par rapport à des références et des valeurs qui se sont construites dans la famille ou dans l'environnement proche, au travers de référents ou de personnes modèles. L'estime de soi, c'est le sentiment d'avoir de la valeur. Nous nous aimons, nous nous sentons aimés, nous nous sentons respectables. Et chacun de nous fonde son estime de soi sur une évaluation de lui-même. D'ailleurs, souvent, on se considère avec une estime de soi moins bonne parce qu'on est très dur avec soi. On est souvent beaucoup plus dur avec soi qu'avec les autres. Et cette évaluation est basée sur ce que l'on pense de soi, de ce que l'on fait de sa vie, mais surtout de ce que les autres pensent de nous. Alors, quelques réflexions que l'on peut entendre de personnes qui n'ont pas ou peu d'estime d'elles-mêmes, ça pourrait être « personne ne m'aime »,« je ne suis pas digne de ceci »,« je ne suis pas digne de cela »,« c'est bien fait ce qui m'arrive », ou « je suis trop grand, trop petit, trop mince, trop gros », etc. Donc, ce sont des critiques que l'on fait par rapport à soi-même et les projections que l'on fait sur les autres, en pensant que parce que l'on pense cela de soi, les autres nécessairement le pensent aussi. Et c'est de là que vient toute la difficulté. La confiance en soi, c'est différent. La confiance en soi, c'est une croyance personnelle et une évaluation réaliste personnelle, à un moment donné, qu'on a les ressources nécessaires pour affronter une situation particulière. Donc la confiance en soi est vraiment du domaine de nos actes et de nos compétences. Ce n'est pas un sentiment permanent. C'est un sentiment qui peut être défini pour certaines actions. Il y a certaines choses pour lesquelles je n'ai pas confiance en moi et pour d'autres pour lesquelles j'ai confiance. Vous possédez la confiance en soi pour affronter une situation précise. Mais il se peut que vous perdiez complètement vos moyens face à une autre. Donc c'est un sentiment plus fugace que l'estime de soi qui est véritablement, comme je l'indiquais, un état. Alors, quelques réflexions que l'on peut entendre de personnes qui n'ont pas confiance en elles. C'est « je n'y arriverai pas »,« je ne suis pas capable », ou alors « je suis comme ça, c'est tout », ou bien « c'est de la faute de ma mère »,« c'est trop tard, je suis trop vieux », ou avec des parents ouvriers, « comment veux-tu que je réussisse des études ?» Donc la confiance en soi est souvent malmenée, en fait, par nos croyances limitantes. Les croyances que l'on a inculquées, en fait, depuis l'enfance. Et 80% de nos pensées et de nos croyances limitantes sont issues des peurs des autres. On raconte souvent l'histoire d'un employé de la compagnie des chemins de fer dans les années 1950, qui est mort de froid, enfermé dans un wagon frigorifique. Le problème, c'est que le frigo était en panne et que sa perception de la réalité, en fait, l'a tué, alors qu'en fait, il ne faisait pas froid. Mais à l'opposé, dans les croyances énergisantes, on avait un dénommé Cliff Young, qui était un fermier australien de 61 ans, et lui ne savait pas qu'il fallait dormir pendant une course, qui était très longue, une course, un marathon de 850 km, et parce qu'il ne fallait pas dormir pour lui, il avait écarté cette idée, et il a continué à marcher, même en se reposant, et il a donc pulvérisé le record de la course. Là, on voit que les pensées énergisantes peuvent vraiment nous conduire à faire des choses extraordinaires, mais que les pensées limitantes peuvent, elles, par contre, vraiment nous créer beaucoup de soucis.
Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a plus de limitants que d'énergisants.
Oui, alors il y a une étude qui a été faite, dont je n'ai pas les références, mais il y a une étude qui a été faite disant que nous aurions reçu entre 0 et 18 ans, 150 000 messages négatifs contre 5 000 positifs. Donc effectivement, la balance est largement en faveur des pensées limitantes.
On n'est pas aidé.
Et puis je rappelle quand même un point essentiel de ces pensées limitantes. J'indiquais que ces pensées limitantes venaient à 80% de la peur des autres. Ça veut dire qu'en fait, nos parents et le milieu éducatif dans lequel on est nous ont transmis des peurs qui ne nous appartiennent pas ou des limitations qui ne nous appartiennent absolument pas. Et que si nous étions débarrassés de ces peurs, nous serions capables de faire des choses totalement exceptionnelles. Mais le simple fait que nous ayons ces pensées limitantes en nous, nous ont simplement fermé complètement des portes, complètement les options. Ça veut dire que même au niveau du cerveau, de vos pensées, il y a des choses qui ne vous viennent même pas à l'esprit. Parce que tout simplement, on vous a expliqué que vous ne pouviez pas. C'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que le cerveau va trier les informations, il ne va pas amener celles qui considèrent que, effectivement, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc si on vous supprime au niveau du cerveau des options, votre choix est beaucoup plus réduit et votre choix ira donc dans les choix qui vous sont dits autorisés. Et donc ça veut dire que le champ des possibles n'est pas important.
Donc finalement, ce serait dans l'éducation, essayer vraiment d'expliquer de plus en plus à nos enfants, ne fais pas attention à ce que les personnes peuvent penser, ne fais pas attention à ce que les personnes peuvent dire.
Déjà, il y a la question de la négation. Si on veut permettre à quelqu'un de se développer, il faut lui parler du champ des possibles et pas de constamment lui montrer ce qui n'est pas possible. Commençons par là. C'est un réflexe que nous avons. On a pu le voir d'ailleurs dans un test très simple. Notre regard est toujours attiré vers l'endroit où on sera emmené. Si vous roulez en voiture et que tout d'un coup vous voyez un obstacle et que vous fixez votre regard sur cet obstacle, eh bien votre voiture vous emmènera sur l'obstacle. C'est une évidence aujourd'hui.
Là, j'ai l'impression qu'on parle de moi quand je me prends les nids de poule.
Si vous regardez les nids de poule, Cyrielle, eh bien vous allez être attiré par le nid de poule et votre voiture ira dans le nid de poule.
Non, c'est eux qui sont attirés par moi. Nuance. Non, c'est pas vrai.
Ça fait partie d'un autre domaine, je ne sais pas, il faudrait qu'on en parle peut-être. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que donc on est attiré par certaines choses. Donc, si j'indique à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut pas faire, il va se focaliser sur ce qu'il ne peut pas faire. Donc, quelque part, il y sera attiré. Ça, je pense qu'au niveau de l'éducation, il y a énormément de choses à revoir, au niveau de l'éducation. Parce que si on pouvait arrêter d'avoir des visions négatives, des visions limitantes d'un ensemble de choses, comme je prenais l'exemple avec des parents ouvriers, comment veux-tu que je réussisse des études ? Au fond, c'est surprenant. Pourquoi ? Parce que j'ai des parents ouvriers, je ne peux pas réussir les études. C'est quoi cette croyance ? Elle vient d'où ? Aujourd'hui, dans le système éducatif, on a quand même des capacités de faire des études un petit peu dans différents domaines, quel que soit le niveau social. On n'a peut-être pas droit à toutes les études, mais on peut quand même faire pas mal de choses. Mais à partir du moment où je coupe l'option à l'enfant en lui disant « mais effectivement, ça ne sert à rien que tu entames ce genre d'études parce que de toute façon, tu ne peux pas le faire », je lui donne aucune chance de réussir. Et donc, peut-être que je vais empêcher cet enfant de faire quelque chose de formidable dans sa vie.
Autre question, qu'est-ce que l'hypnose et l'hypnothérapie peut apporter dans le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi ?
Alors l'hypnose peut permettre d'agir sur des processus donc inconscients, puisque donc l'hypnose travaille avec le subconscient et les processus inconscients, et notamment les processus inconscients qui vous ont empêché d'avoir confiance en vous. Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut travailler. Agir sur les processus inconscients. Agir sur les processus inconscients qui n'ont pas favorisé la prise de conscience, parce que ça c'est important. Quand on a une prise de confiance en soi importante, on peut agir sur ces choses-là. Et faire reprendre confiance en soi en demandant à l'inconscient de récupérer la confiance en soi à certains moments de votre vie où vous ne l'aviez plus. Hein, donc c'est vrai qu'on peut aussi faire ce qu'on appelle de la visualisation, et vous permettre sous hypnose d'imaginer des situations dans lesquelles vous vous retrouveriez en pleine confiance. Et à ce moment-là, vous avez cette capacité de l'imaginer, et si vous l'imaginez et que vous la voyez, vous pouvez vous dire que c'est tout à fait possible.
Le jour où j'ai passé mes derniers partiels de troisième année de fac, ce serait bien de me visualiser, parce que j'étais tétanisée. Hein.
Alors, on aurait pu, à ce moment-là, par exemple, faire une prévisualisation. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans ce cas-là ? On aurait pu, par exemple, une semaine avant que vous fassiez vos examens, vous faire une visualisation sous hypnose du jour où vous faites l'examen. Et d'imaginer ce moment-là en vous expliquant différentes choses et en vous suggérant que vous vous sentez à ce moment-là très bien, en pleine possession de vos moyens, que tout se passe très bien, que ce que vous lisez, vous le comprenez parfaitement et que vous êtes tout à fait à même d'y répondre. Ce système de prévisualisation vous permet en fait de fixer dans le cerveau, je dirais, une situation, un état de réussite. D'accord ? Et ça vous permettra de retrouver cet état de réussite le jour où réellement vous ferez cet examen. C'est d'ailleurs ce qu'on peut faire d'ailleurs dans le monde du sport. Dans le monde du sport, on peut faire la prévisualisation mentale de réussite sportive. C'est-à-dire faire imaginer à la personne, avec différentes modalités et sous-modalités, c'est-à-dire différents états sensoriels, la situation de la victoire. Ça permet à la personne d'avoir les ressentis, au fond, de cette victoire, de trouver confiance en elle lorsqu'elle a besoin de faire cette compétition ou ce challenge ou cet examen. Donc concernant effectivement l'hypnose pour la confiance en soi et l'estime de soi, il faut en général plusieurs séances de travail. Et pour l'estime de soi, comme il s'agit d'une comparaison avec ses valeurs, ce qui est important déjà, c'est de faire le point avec les valeurs. Quelles sont mes valeurs ? Et en quoi la perception de mon comportement est-elle en décalage par rapport à mes valeurs supposées ou mes valeurs réelles ? Et donc les protocoles hypnotiques métaphoriques permettent bien souvent de retrouver ou de consolider les valeurs et la perception de celles-ci au regard des actions posées. Donc ça c'est important, c'est de faire une découverte de ces valeurs. Mais je pense que nous allons en parler dans le sujet qui suit.
On va marquer une petite pause, on parlera ensuite d'une méthode en 15 points pour travailler la confiance et l'estime de soi.